s'appelle Hélène Dazon, je suis militante libertaire, membre de FICOTEL entre autres, et j'étais membre du comité d'accueil du Sommet des Amériques, la CASA. Le Sommet des Amériques, ça représente pour moi une expérience de conscientisation, de politisation, mais aussi d'organisation super importante à plein de niveaux, tant avec des militants libertaires qu'avec des gens, entre autres, ou des étudiants et des étudiantes. Donc, ça a permis vraiment, dans le fond, moi, je trouve, une organisation... Moi, j'étais dans le mouvement étudiant. J'ai été membre de la Coalition Orange, donc c'était beaucoup sur la question des contrats d'exclusivité de Coke et Pepsi à l'Université Laval. Ça a été ma première expérience militante qui m'a menée justement après au sommet. On a senti le besoin d'avoir une organisation autonome avec justement des individus dans le fond. Il y a deux collectifs qui ont fait un appel, dans le fond, pour la création de cette coalition-là. Donc, c'était le collectif anarchiste Émile Henry et le collectif Yonaki. Puis, c'est ça. C'était aussi beaucoup la question de la diversité des tactiques qui nous a amené à créer la CASA, parce que c'était quelque chose qui était problématique au sein de l'UQP. Donc, avec, je dirais en miroir avec la CLAQ, dans le fond, on a décidé de fonder ça, donc de faire un appel. Qui veut s'organiser, organiser la résistance pour le Sommet des Amériques sur une base anticapitaliste, non hiérarchique. L'organisation a commencé donc une bonne année avant. Moi, ce que je trouve intéressant d'un point de vue libertaire de cette organisation-là, c'est que souvent on va dire, bon, ça a été quoi l'apport de la gauche radicale pendant le Sommet des Amériques? Mais je pense que concrètement, ça a été l'organisation en différents comités qui étaient autonomes mais qui étaient redevables, dans le fond, à l'Assemblée générale, parce que c'est comme ça qu'on fonctionnait à la CASA. On a vu, dans le fond, que ça fonctionnait, puis ça fonctionnait très bien. Donc, je me suis impliquée dans plusieurs comités. Il y avait le comité artistique, le comité légal dont j'ai fait partie, le comité action qui s'occupe plus des manifestations, l'organisation. Le comité bouffe, ça a été une organisation sans précédent. On s'est rencontrés à partir du mois de janvier. Il y avait deux collectifs, dans le fond, qui travaillaient au Tantam Café et au Cégep de Limoilou. Chaque fin de semaine, à partir du mois de janvier, on a préparé de la bouffe à l'avance qui nous a permis de servir 12 000 repas en 3 jours, ce qui est quand même assez incroyable. C'est comme ça que ça s'est préparé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de militants et militants de la CASA qui se sont impliqués aussi dans la campagne contre le périmètre. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant de voir aussi, c'est que les militants et militants radicaux ne se sont pas juste impliqués dans des organisations qui poussaient Rouge et Noir ou anarchistes, mais qui se sont impliqués aussi, entre autres, dans la campagne contre le périmètre du comité populaire. Puis moi, je pense que justement, ce travail-là d'éducation populaire puis de démystification du discours de peur que les gouvernements et la SCRS poussaient, ça s'est traduit justement concrètement pendant ces 3 jours-là par une solidarité avec les personnes qui vivaient dans le quartier. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que c'est important de souligner. Donc justement, la campagne adoptée un militant, ou c'est ça, il y a le comité d'hébergement, en tout cas, que je vais parler. Au fait que tous les endroits qu'on essayait, les gymnases qui nous avaient dit oui, on avait loué pour accueillir les militants et les militantes, ben, ils recevaient des visites de la police qui nous rappelaient et disaient « Ah, ben finalement, ça marche plus. » Donc, c'est ça qui a fait qu'on a lancé la campagne « Héberge un militant conjointement avec Occupé ». On avait fait une conférence de presse au Café Humanitaire, puis aussi on a ouvert l'université, en fait. Je pense que c'est important de le mentionner. Il y a eu la CASA, il y a eu Occupé, mais il y a aussi le comité le CLIC. Collectivité de logement étudiant à l'Université Laval, qu'on a vraiment carrément ouvert l'université. Donc,
c'était pas prévu, ça, au
programme. C'était pas prévu du tout, mais on est vraiment allé voir, entre autres, par le biais des associations étudiantes. Comme je te dis, je suis dans le milieu étudiant encore à ce moment-là. on est allé voir l'université, puis on a dit, ben, c'est pas compliqué, soit vous organisez avec nous, puis ça va, vous allez avoir un certain contrôle sur l'organisation, soit on va occuper l'université tout simplement. Fait qu'ils ont accepté, puis on a vraiment, ça a permis, je pense, plus de 5000 personnes qui ont dormi au PEPS. Il y avait des assemblées générales à l'Agora, au Desjardins, donc on a ouvert l'université aussi, ça, ça a été intéressant.
We shall fight them on the beaches. We shall fight them on the shore. They will bring us exploitation. We'll bring them their class war. And we'll lock down to the gates as they're spreading vicious lies. They want to dominate the world, and we see through their disguise. If they'd have one big multinational with their corporate flag unfurled, searching everywhere for the lowest wages in the world, then we'll have one big union from Melbourne to Prague to Seattle town. Wherever they may go, we will shut them down. We'll shut them down. We'll shut them down. We will shut them down. Got the chorus yet? That's it. That's it.
C'est pas passé comme je l'avais imaginé, parce que justement, on pense qu'on organise, on était dans le fond, c'est nous autres qui accueillaient. Hein? Fait, tu sais, les contacts avec les collectifs, les organisations extérieures à Québec, on a l'impression qu'on est en contrôle de tout. Puis justement, moi, j'ai vraiment été surprise, ravie, impressionnée par les collectifs autonomes qui sont arrivés. Je pense entre autres à des collectifs américains qui sont arrivés, qui avaient préparé sur eux-mêmes d'amener de la bouffe, de distribuer des bouteilles d'eau. On n'a pas parlé du comité, pas au niveau de la sécurité, mais plus de la santé. Je ne sais plus c'est quoi le nom. En tout cas, les gens...
Les médics.
Oui, voilà, les médics qui ont fait un travail assez impressionnant pendant les manifestations. Les médias aussi, tu sais, on a eu nos consultas, c'est-à-dire des rencontres parce que différents collectifs militants s'organisaient, mais il y a eu une consulta d'indie médias aussi avec le CEMAC, ça c'était intéressant aussi. Donc ouais, c'est la créativité puis la part des gens de l'extérieur, je dirais que moi qui m'a le plus impressionné au niveau légal aussi. Nous autres, notre comité, on n'était pas beaucoup, puis on s'entend là. Moi, dans le fond, j'étais dans le comité légal, mais je connaissais pas grand-chose là-dedans. C'était plus de donner du jus de bras, de répondre au téléphone. Puis il y avait des comités légaux des États-Unis que c'est eux qui m'ont vraiment amené plus à une conscientisation au niveau de l'organisation, qu'est-ce que ça peut représenter, parce que c'est une chose de mobiliser les gens pour qu'ils aillent dans la rue, mais moi, je trouve qu'on a une responsabilité justement ensuite de faire le suivi légal, parce que c'est là qu'on va isoler les gens, puis si on veut que les gens retournent dans la rue, manifestent encore, ben,
and we will build a new world without the corporate elite. And we will see the day of their international defeat. We'll have self-determination and equality for all. For what choice do we really have but to rise up and see them fall? We'll shut them down. We'll shut them down. We will shut them down. One more time. We'll shut them down. We'll shut them down.
Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.
Moi, je pense que pour les militants et les militantes à Québec, ça a été vraiment une école dans le fond, un moment où est-ce qu'on s'est conscientisé, politisé super rapidement, pour ceux qui l'étaient moins. C'est ça, je trouve que ça a permis de créer des liens. Les gens ont appris à s'organiser dans l'urgence sur le tas. Dans les trois jours, même cette semaine, si on s'était préparé avant. Puis je pense que ça l'a vraiment permis aussi de réseauter les gens. Il y a comme plein de projets qui ne sont pas liés nécessairement au sommet, mais qui émanent de ça parce que les gens ont appris à travailler ensemble. T'sais, qu'on pense au squat 920 de la Chaudrassière, à la Page Noire, à la JT. Je sais que ça peut avoir l'air loin, mais moi, dans ma tête, ça a un lien parce que c'est ça, c'est vraiment
c'est
la capacité.
Dans la foulée, en fait.
C'est ça, c'est dans la capacité de s'organiser puis de voir, dans le fond, que ça fonctionne notre manière de s'organiser. C'est ça, dans notre capacité de faire, donc, assemblée générale, comité autonome, décentralisé. Ça fonctionne, même s'il y a bien des gens qui diraient le contraire, c'est vraiment efficace. Puis, encore une fois, je reviens au quartier Saint-Jean-Baptiste, mais moi, je pense qu'on l'a vu justement que les méchants anards, entre guillemets, puis qui font la tournée, puis qui expliquent qu'est-ce qui va se passer, ben ça fonctionne aussi. Puis dans le fond, il faut pas décourager l'éducation populaire. Tiens, surtout avec la montée des radios poubelles, etc., on a l'impression qu'on est sur notre coin, puis que tout le monde est à droite, mais je pense que c'est pas vrai, puis qu'il faut continuer à le faire, cette part-là, d'aller vers les gens.
Bonjour, bonsoir. Vous aurez compris que vous écoutez Voix de Fait sur les ondes de CKA 88.3 à Québec, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Cette semaine, 20 avril 2011, 10 ans jour pour jour après la chute du mur de la honte, on vous propose un spécial sur le sommet des Amériques. En fait, les anards et le sommet. On a eu déjà Hélène qu'on a passé en entrevue. On va voir aussi Mathieu, éventuellement moi. Exceptionnellement aujourd'hui, pour des raisons qui m'échappent, je suis seul face à la console. Donc soyez indulgents. On va s'en aller en musique à l'instant avec David Rovix qui a bercé toutes nos luttes contre la mondialisation. Alors, ça s'appelle Behind the Barricades.
When the world has gone crazy and it's all becoming clear, when they're gunning down our comrades and it seems the end is near, as they're loading up the launchers for the tear gas grenades, we can take off our bandanas and kiss behind the barricades. When it's madness all around and you can see this at a glance, we will sing and we will cry, we will laugh and we will dance, as they shout their marching orders beneath the helicopter blades. We shall seize the moment for a kiss behind the barricades. They will try to break our spirits, and at times they may succeed, but our love for the world is stronger than their greed. When the building is surrounded and hope begins to fade, in my final hour, a kiss behind the barricades. As the movement grows, there will be hills and bends, but at the center of the struggle are your lovers and your friends. And the more we hold each other up, the less we can yearn to love and solidarity and a kiss behind the barricades.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Courcel. Je travaille actuellement au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. J'habite le Québec depuis 2001, juste après, je suis venu y vivre juste après le sommet des Amériques.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple Khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple.
Ça a été un moment très important. C'était un point culminant de plusieurs années d'implication dans le mouvement étudiant d'abord, puis après dans les mouvements pour la justice sociale. Et ça a été pour moi un révélateur de l'ampleur de ce que pouvait prendre finalement un mouvement sur les bases anticapitalistes. Parce que depuis au moins les 10 années précédentes avaient été plutôt morose de ce côté-là. C'est comme si les luttes sociales avaient pris un tournant où les mots, justement le mot capitalisme avait disparu du vocabulaire, avait été remplacé par un horizon politique très limité. Donc, de voir un sursaut d'anticapitalisme militant et massif, ça a été une grande, grande dose d'encouragement.
Salut à toi, le Libanais. Salut à toi, le Pakistanais. Salut à toi, le Philippin.
J'étais aussi impliqué depuis peu dans des groupes libertaires. Depuis en 98, j'ai commencé à m'intéresser davantage aux idées anarchistes puis à participer à l'élaboration de collectifs libertaires à Montréal, autour de l'Université du Québec à Montréal. Et puis, dans l'année qui a précédé le sommet des Amériques, j'ai participé à la fondation de la Convergence des luttes anticapitalistes, la CLAC, avec Louise Boivin et Jack Singh. Louise que j'avais rencontrée à l'UQAM dans le cadre de la grève générale étudiante de 96, à laquelle je m'étais beaucoup impliqué, et Jaggy que j'avais rencontré en 98 autour d'un rassemblement anarchiste qui a eu lieu à Toronto qui s'appelait Active Resistance.
À l'époque, il y avait des grandes coalitions. Au Canada anglais, il y avait des trucs comme Mob for Blood. À Montréal, il y avait le Sommet des peuples, ou Forum des peuples, ou je ne sais plus, le RQIC, le Regroupement québécois pour l'intégration continentale. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous organiser à part?
Ben, le RQIC, moi, à ce moment-là, je travaillais comme étudiant dans un groupe de recherche pour un des responsables du RQIC, Dorval Brunel, qui était quand même... Le RQIC avait fait beaucoup quand même dans les années 80, même les années 90, pour essayer de mobiliser l'opinion publique québécoise sur les enjeux liés au traité, aux accords de libre-échange. Mais avec des éléments un peu plus... disons, des électrons libres des mouvements sociaux, on en est venu à la conclusion que jamais le RQIC, dont étaient membres finalement des grandes organisations syndicales et populaires et ci et ça, dont nous ne faisions pas partie, puisqu'on était comme complètement en marge de ça, on a bien vu que leur analyse s'arrêtait à maintenant, par un certain pragmatisme, à demander l'inclusion de clauses sociales, environnementales, dans les accords de libre-échange. Plutôt que de revenir à la base et une critique plus fondamentale de la logique de ces accords-là. Alors, ça vient, je pense, d'un constat que les réponses des regroupements comme le RQIC n'étaient pas en mesure de vraiment mettre en échec la logique qui conduisait les États à adopter des accords comme ceux-là. Il faut dire que l'ASLEA était vue, donc la zone de libre-échange des Amériques, contre laquelle la CLAC s'est formée, était l'incarnation pan-américaine du libre-échange, mais il y avait aussi quelque chose qui pendait derrière nous, comme une épée de Damoclès, c'était l'accord multilatéral sur les investissements. Et il y avait eu des batailles importantes menées aux quatre coins du monde contre cet accord-là. Et je dirais que c'est plutôt ça qui nous inspirait. C'est les mouvements qui allaient à la racine des problèmes, des mouvements plus radicaux. Les événements de Seattle, donc le sommet de l'OMC là-bas, les manifestations qui ont accompagné le sommet ont été encore une fois, là, ont insufflé une dose d'énergie à tout le mouvement. Soudainement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul dans notre coin non plus à désirer les mêmes choses. Il y avait un mouvement qui émergeait et qui profitait finalement des occasions, des sommets pour prendre tout l'espace et agir dans l'espace public de façon assez radicale aussi. Je sais que Jaggy avait participé, entre autres, aux mobilisations contre le sommet de l'APEC à Vancouver. Mais Jaggy avait une certaine expérience d'organisation et avait bien vu qu'il fallait se préparer longtemps d'avance. On ne peut pas s'organiser 3 semaines avant le sommet pour organiser une manif, puis espérer être nombreux et nombreuses, puis d'avoir un impact sur... Non, il fallait s'organiser plus longtemps d'avance. Alors, c'est ce qu'on a décidé de faire en lançant un appel, qu'on a signé à 3, mais rapidement, je veux dire, ça s'est dépersonnalisé, et c'est devenu, au fil des mois, la convergence de lutte anticapitaliste. Et ça a été une année assez chargée. La fondation de la CLAC, d'abord, s'est faite à la suite, je pense, à la deuxième ou la troisième rencontre de cette coalition-là, que d'abord, la première réunion a donné le ton. Il y avait déjà quand même, on avait réservé une salle à l'UQAM qui s'est rapidement remplie. Il a fallu changer d'endroit pour tenir les réunions subséquentes. Donc, il y avait énormément d'intérêt. Rapidement, ça a été décidé que c'était une coalition qui regroupait des individus et non pas des groupes. Mais il y avait toute une mouvance contestatrice qui ne se retrouvait pas nécessairement dans les organisations déjà existantes et qui finalement se trouvait à se donner sa propre organisation, la CLAC, mais sur une base radicale, très démocratique, des principes quasi-anarchistes, mais sans jamais que le mot n'apparaisse. Là. Parmi les éléments que la claque des choses que la claque a pu accomplir au cours de l'année précédente, il y a eu un important travail d'éducation populaire qui s'est traduit par des dizaines et des dizaines d'ateliers qui se sont donnés aux quatre coins de la province et au-delà. Parce que on savait qu'il y avait un mouvement anticapitaliste en émergence ailleurs qui attendait d'avoir des nouvelles de ce qui allait se passer au prochain grand rendez-vous du cirque des États, des gouvernements et des grandes entreprises. Et ce moment-là, ça allait être Québec. Alors, tout le monde attendait ce moment-là avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Moi, personnellement, ça m'a un peu dépassé l'ampleur que ça a pris. Ça a été très, très prenant. Par exemple, à l'automne 2000, en tentant un peu le pouls, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller faire une tournée de conférences et de présentations en Ontario. Et dans chaque ville où on passait, on parlait devant des salles pleines de gens qui... On va par exemple le premier soir à Windsor en Ontario. Il y avait beaucoup de monde qui était là, qui nous attendait. Pourtant, Windsor, c'est loin du Québec. Et à travers des contacts personnels des uns et des autres, finalement, on s'est rendu compte qu'il allait y avoir à Québec beaucoup de monde. Et beaucoup de monde, pas juste beaucoup de monde sur des bases anticapitalistes. Et plus on avançait, plus on se rapprochait de l'événement, plus on sentait que ça allait être gros. Mais sans que, je pense que personne n'avait envisagé que ça soit aussi gros les jours pendant le sommet. Et on n'était pas préparé logistiquement pour faire face à ça. Organiser une manifestation anticapitaliste où tu as 10 000 personnes avec un point de rendez-vous aussi flou que celui qu'on avait donné, en fait, il y avait deux manifestations avec des objectifs distincts qui partaient du même endroit. Sur le campus de l'Université Laval, sans service d'ordre, sans, vraiment assez spontané, puis où ça split à une intersection. Exact. Bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais c'est juste pour dire que c'est assez stressant quand tu te présentes au lieu dit du rassemblement, tu n'as aucune idée de la façon dont ça va se passer, parce que tu ne maîtrises pas, c'est quelque chose qui te dépasse complètement. Pour moi, à ce moment-là, je me suis pas senti pendant le sommet comme un organisateur nécessairement. À partir du moment où ça part, ça part. Je pense pas me tromper en disant que la majorité des membres actifs de la claque n'ont pas participé à des black blocs ou à des actions plus offensives pendant le sommet. Pour la majorité, c'était des gens qui voulait manifester, qui voulait porter un discours radical, mais qui voulait pas non plus juger et condamner les gens qui décidaient d'affronter directement la police ou de s'en prendre au périmètre de sécurité ou à des fenêtres. Ils refusaient finalement cette dichotomie-là que certains essaient de créer dans le mouvement anticapitaliste ou dans les mouvements de résistance entre les bons et les méchants, les bons et les mauvais manifestants. Donc, en refusant ça, et en essayant toutefois de créer des espaces où chacune pourrait s'y retrouver.
De gérer plutôt que de le condamner.
Exact. D'essayer de trouver une espèce, rules for riot, des règles pour les mains.
Il va en avoir une, on s'organiser que ça se passe bien.
Oui. Et de là, l'idée, a émergé, je ne sais d'où, là, de la question des zones vertes, oranges et rouges. Ce code de couleur-là, bien qu'imparfait, renvoyait quand même à un désir d'unité qui était plus fort que le préchi-précha des apôtres de la non-violence intégrale. Est-ce quelque part plutôt encore y croire une révolution qui t'en pense en façon? Est-ce quelque part cette lueur d'espoir, un drapeau rouge et noir? Ce que j'en retire, c'est une expérience hors du commun qui a permis à des gens de se faire une tête sur le genre de mouvement que ça nous prend pour lutter efficacement contre les politiques qui nous sont imposées d'en haut. Un lieu aussi qui m'a permis de voir personnellement les limites d'un mouvement strictement de de mouvement, oui, généreux dans le sens où tout le monde arrive, peut y avoir sa place, mais qui peut aussi se retrouver comme un noyauté, sans le vouloir, par des freaks de toutes sortes qui ont leurs idées, leurs idées très précises, qui accaparent finalement toute la discussion. Donc, politiquement, personnellement, la nécessité de s'organiser aussi sur des bases plus claires. Pour ça, entre autres, j'ai, après le Sommet des Amériques, décidé de me joindre à une organisation anarchiste qui est l'UNIFAC, la Fédération des communistes libertaires du Nord-Est, de l'expérience que j'en retirais. Donc, pour moi, c'est ça aussi. Là, ça m'a permis de voir au niveau individuel ce que je voulais faire politiquement de façon beaucoup plus précise. Donc, en gros, c'est ça. Mais je porte pas de nostalgie du bon temps. Je pense qu'au contraire, on a continué à se développer. On a ramené les principes d'action, de démocratie qu'on a expérimentés pendant le sommet, mais on les a ramenés dans des organisations sociales et communautaires et populaires. Et vice-versa, ce milieu-là a aussi influencé, m'a influencé aussi en fait.
Bonsoir, vous êtes toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit, en compagnie de Nicolas et de lui-même, finalement. Donc, on vient d'entendre Mathieu Lecourcel, c'est une émission spéciale sur le Sommet des Amériques, 10 ans plus tard. On a eu Hélène Nazon un peu avant, et on aura vraisemblablement moi, à défaut d'autre chose, un peu après. Dans l'immédiat, on va s'en aller en musique avec Corrigan Fest, La Victoire en chantant. Alors, c'est la pièce de l'album éponyme, finalement. Donc, vous écoutez ça sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec.
Clandestin, reste nos idéaux. Allez, pas pâte. Si la nuit est tombée sur une Europe chantante où l'Espagne a coulé, il reste encore l'espoir que tout n'est pas perdu. Contre la dictature, le combat continue. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. Tu passes loin, le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant.
Et de retour à Voix de Fée sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec pour cette émission spéciale de retour sur le sommet des Amériques. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une émission sur le sommet des Amériques? À la base, c'était pas dans nos plans de faire dans la nostalgie et de faire dans les revivals, en fait, la Ligue du Vieux-Poil, même si, bon, ça fait juste 10 ans, c'est peut-être pas la Ligue du Vieux-Poil, c'est peut-être de l'histoire vivante, mais sérieusement, à voir les commémorations qui se sont faites ici et là, il nous semblait qu'il manquait quelque chose qui était important, c'est le point de vue des anarchistes, qui ont quand même joué un rôle important dans le sommet des Amériques et dans tout ce qui entourait ça. Et il y avait beaucoup d'acteurs, finalement, qui n'étaient pas là. Et des gens qui auraient dû être là. Bon, je suis un peu responsable dans la mesure où j'ai refusé toutes les demandes d'entrevue autour du sommet des Amériques, mais je ne pouvais pas me douter qu'on finirait par nous parler du militantisme durable de Philippe Duhamel et ce genre de choses. Donc, voilà. Hey, le sommet des Amériques, qu'est-ce que ça peut représenter aujourd'hui? Ben, Hélène l'a dit, puis je crois qu'elle avait raison. L'expérience du sommet, c'est une expérience d'organisation. C'est une méchante grosse expérience d'organisation. Et en fait, ça a été un révélateur formidable. On est capable. On est capable de faire des grandes choses. On est capable de recevoir la planète à Québec. Et on est capable aussi d'organiser des mouvements de contestation d'une ampleur rarement vue, rarement égalée, même si, effectivement, bon, c'était des gens d'un peu partout. Donc, ça, c'est une des premières choses. Avant le sommet des Amériques, la gauche à Québec était particulièrement marginale. Elle est toujours aussi marginale, par ailleurs, mais elle est beaucoup moins. Il n'y avait pas grand-chose. Et ça, c'est une des choses qui a changé. À l'époque, moi, je me souviens, quand je suis arrivé dans la belle région de Québec, aux alentours de 96, pendant longtemps, dans les groupes communautaires, dans le mouvement étudiant, dans la société en général, mais surtout dans les mouvements sociaux, on était... puis pas juste les anarchistes, là, l'ensemble de la gauche dite radicale, là, y compris là, l'ancêtre de Québec solidaire, je me souviens plus si c'était le PDS ou l'UFP à l'époque, mais on était insignifiants et en fait, on passait à côté de nous sans problème. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois, le sommet des Amériques, où on a pu passer à côté de la gauche radicale sans la voir et en la mettant dans un coin. Parce que c'est ce qui s'est passé, en fait, peut-être 8-10 mois, un an maximum avant le sommet des Amériques, il y avait... des grandes manœuvres pour former des coalitions, pour organiser des manifestations autour de cet événement charnière. Hein? Le cercle de la mondialisation s'en venait chez nous. Puis bon, il y avait eu Seattle, il y avait eu d'autres choses, donc c'était gros. Et c'est ça, donc on se retrouvait avec les grandes coalitions nationales dont Mathieu parlait, le regroupement québécois sur l'intégration continentale, mais aussi des regroupements régionaux. Par exemple, Occupé 2001, l'opération Québec Printemps 2001. À l'origine, dans Occupé 2001, ben, il y avait aussi les anarchistes, mais à un moment donné, en cours de route, comme Hélène expliquait, il y a eu des débats sur la question de la violence et de la non-violence. Et sans que les gens y prennent nécessairement position pour la violence, il y avait une nouvelle notion qui était en vogue, qui était le respect de la diversité des tactiques. Et en fait, comme Mathieu l'expliquait, il s'agissait de ne pas dénoncer finalement les gens qui pouvaient choisir d'autres moyens qui, évidemment, on ne parle pas de terrorisme ou de faire mal à des gens ou quoi que ce soit, là, on parle d'action directe. Et donc, de ne pas dénoncer ces gens-là alors que tout le monde, tout l'appareil médiatique, toute l'opinion publique voulait les dénoncer. Donc, les anarchistes sur cette question-là je trouvais que c'était important d'amener le respect de la diversité des tactiques, plus ça en fait, peut-être même que l'anticapitalisme, la notion de hiérarchie et tout. Puis c'est vraiment sur cette question-là qu'il y a eu un split en 2000-2001. Sur cette question-là, en fait, il y a une partie de la gauche radicale qui a décidé de s'allier avec des syndicats locaux, des associations étudiantes, tout, a fait finalement le choix d'aller vers les mouvements sociaux, puis une autre partie de la gauche radicale qui a décidé que non, elle n'allait pas reculer sur ces questions-là. Donc, elle s'est organisée de façon autonome dans la CASA. Moi, avant le Sommet des Amériques, je m'impliquais, j'étais militant anarchiste, comme aujourd'hui d'ailleurs, et j'étais permanent coordonnateur du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, c'est ça, j'avais comme deux chapeaux. Donc, d'un côté, dans les mouvements sociaux, et de l'autre côté, comme militant radical du groupe Émile Henry, qui est en fait l'ancêtre du collectif Anarchiste la Nuit, qui fait l'émission ici à CKIA. Et donc, on s'impliquait finalement dans le mouvement communautaire, dans le mouvement étudiant. On essayait de s'impliquer dans les mouvements sociaux dans une perspective de radicalisation. Donc, on disait qu'on voulait radicaliser les luttes, non pas dans le sens vulgaire où on entend radicalisation habituellement, mais dans le sens de dire on va aller à la racine des problèmes. Et puis donc, pour nous, c'est intéressant, là, cette perspective-là anticapitaliste et tout. Et surtout, cette perspective aussi de développer de l'action directe et de pas limiter à l'avance les moyens de protestation. Et donc c'est ça. Au Comité populaire, on a décidé très rapidement, en Assemblée générale, on avait invité des gens de la CLAC. Louise Boivin, justement, et quelqu'un d'Occupé 2001, je me souviens plus si c'était Sébastien Bouchard ou quelqu'un d'autre, mais le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, donc le Comité de citoyens dans le quartier où il allait avoir le Sommet des Amériques, a décidé de pas prendre position, de pas dire on va s'allier juste avec eux ou juste avec eux, a décidé de travailler avec un peu tout le monde. Et rapidement, le point qui, pour l'ensemble des groupes sociaux, c'était l'ASLEA, pris dans son sens large, les risques que ça pouvait amener pour la démocratie, pour les droits sociaux, pour tout ça. Ce qui était important aussi au Comité populaire, il y avait beaucoup, beaucoup de conférences à l'Université populaire. Entre autres, je me souviens de M. Gélina qui était venu nous parler de la globalisation et puis tout ça, plein de gens qui sont venus nous parler de mondialisation puis des dangers aux droits. Mais le point de contact de la population du quartier, donc du Comité de citoyens avec le Sommet des Amériques, c'était pas nécessairement les enjeux qu'il y avait à la table des négociations, c'était le périmètre de sécurité. C'était la présence de 6000 policiers dans notre quartier, les gaz lacrymogènes. Bon, on savait pas qu'il y aurait des gaz lacrymogènes, mais enfin, c'était tout ça. Puis là, il faut se remettre dans l'époque. Aujourd'hui, c'est quasiment un autre monde, mais à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifestations partout dans le monde, à chaque fois qu'il y avait un sommet. Ça commençait avec... ça n'a pas commencé avec ça, mais mettons qu'on en a pris conscience avec ça, à Seattle, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Grosse manifestation, ça a fait la une de tous les journaux. Puis après ça, les journalistes se sont rendus compte finalement que Québec, c'était le prochain sur la liste. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait une manifestation quelque part, par exemple, il y avait eu un sommet du FMI à Prague, puis il y avait eu, en fait, le centre-ville de Prague avait été le terrain d'émeutes relativement violentes et de grosse action de Black Bloc et de grosse action non violente aussi. Puis bon, tout ça, c'était la première expérience de respect de la diversité des tactiques. Puis les unes du Soleil et du Journal de Québec, qui habituellement se foutaient des manifestations et se foutent encore aujourd'hui des manifestations qui se passent en Europe, que ça vire mal ou bien ou quoi que ce soit, ça fait toujours juste des entrefilets avec des belles photos des fois, mais la une des journaux, c'était la prochaine fois, c'est à Québec. Puis donc ça inquiétait les gens. Puis il y avait toute cette question-là du périmètre de sécurité. Il allait mettre une clôture au milieu du quartier, puis là, ça prendrait des passes pour passer. Puis là, c'est bref, la mondialisation débarquait chez nous. Et bien honnêtement, une des choses que tout le monde retient du Sommet des Amériques quand tu écoutes les discours militants, c'est la solidarité de la population de Saint-Jean-Baptiste avec les manifestants. Je suis pas sûr qu'ils s'éveillent. Si ça avait pas été dans Saint-Jean-Baptiste et s'il n'y avait pas eu de mur, il n'y aurait eu une solidarité si forte. Mais ce mur, cette clôture au milieu du quartier a été en fait un élément qui a tellement divisé, que ça l'a tellement polarisé que finalement les gens qui n'étaient pas sûrs d'être pour ou contre, ils ont fini par se retrouver pour la plupart du côté du Compop, parce que en fait c'était à eux qu'on s'attaquait, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec la mondialisation, c'était à eux qu'on s'attaquait. Donc nous, on s'est organisé à part pour contester ce mur de sécurité-là, ce périmètre de sécurité, et on a organisé toute une campagne. On a décidé de travailler avec la CASA et avec Occupé 2001 et avec des groupes populaires qui étaient membres d'Occupé 2001 mais qui étaient surtout des alliés de longue date du Comité populaire. Et puis donc, on a fait cette campagne-là et puis ça a culminé avec une manifestation où il y avait l'enterrement des droits et libertés, en fait, l'enterrement de la... Ouais, c'est ça, l'enterrement de la charte, finalement, avec des gros cercueils et tout et tout. Peut-être 400 personnes, 500 personnes qui ont participé à cette manifestation-là. C'est une des plus grosses manifestations organisées par le Comité populaire sur ses propres bases de toute son histoire. Puis à l'époque, il y avait quand même plusieurs libertaires dans le Comité populaire, peut-être même plus qu'aujourd'hui. Donc, la permanence sur le conseil d'administration dans les militants, il y avait beaucoup, beaucoup d'anarchistes. Puis, pour la plupart, on pensait, en gros, que un coup ça passé, notre job était comme fini comme comité populaire, puis qu'on allait pouvoir soit aller dans occupé ou dans la CASA, puis ce serait eux qui s'occuperaient des affaires. Mais les gens n'ont pas entendu comme ça. Au fur et à mesure que les choses ont avancé, puis surtout quand ils se sont mis à construire le mur, les gens se sont mis en colère, puis il y a de plus en plus de gens qui sont venus voir le comité populaire pour dire « Nous, on fait quoi? » Nous, on fait quoi? Ça fait un an et demi, deux ans que vous nous parlez du Sommet des Amériques. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Elle va être où, notre manifestation pacifique? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait sur la rue Saint-Jean? Comment est-ce qu'on s'organise pour qu'il n'y ait pas de casse? Comment est-ce que... Et tout et tout. Alors, on s'est retrouvé très rapidement à dire, bon, ben on va organiser une zone verte sur la rue Saint-Jean. C'était pour nous la meilleure façon de permettre à tout le monde de participer, de permettre aux résidents de participer, de sécuriser les gens sur les risques de casse. Et donc, c'est ça, on s'est retrouvé à organiser une zone verte sur la rue Saint-Jean en quatrième vitesse, alors que l'immense majorité des militants qui d'habitude nous aidaient à organiser ce genre de choses-là étaient tous occupés à la CASA ou à occuper ou à la claque. Et donc c'est ça, ça a été vraiment euphorique, c'était magistral. Je me souviens, après le sommet, on avait l'impression là, que tout était possible. C'était complètement différent du climat qui règne aujourd'hui à Québec, où on parle beaucoup de montée de la droite, puis tout ça. Donc, beaucoup, beaucoup de travail d'organisation et beaucoup, beaucoup de travail de outreach. Je cherche le mot en français, je ne le trouve pas. Beaucoup de travail pour aller vers les gens, pour travailler avec le monde, puis distribuer des tracts de porte-à-porte, puis imprimer des journaux. Puis, le comité populaire avait tellement peur que les gens ils soient pas trop au courant, puis qu'ils aient peur qu'ils soient désinformés. Et ils étaient effectivement désinformés par les masses médias, qu'on avait pris l'infobourg, puis qu'on avait décidé de booster le tirage pour couvrir tout Montcalm, tout Saint-Jean-Baptiste, tout le Vieux-Québec. Puis dans cette infobourg-là, il y avait non seulement comme 8 pages écrites par le comité populaire, par les militants du comité populaire sur qu'est-ce qui allait se passer au Sommet des Amériques, mais il y avait en plus 4 pages de la CASA, du comité d'accueil du Sommet des Amériques, qui expliquait leur perspective, qui expliquait c'était quoi les zones rouges, vertes, jaune. Donc c'est ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de travail auprès des gens, beaucoup d'organisations. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé. Nous, on pensait que, en gros, il y aurait une manifestation anticapitaliste, il y aurait peut-être un peu de brasse camarade à Hondeville, surtout sur René Lévesque, autour du mur. On pensait qu'il y aurait une grosse manifestation pacifiste le lendemain, le 21. Ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment, on le sait. On a été gazés mur à mur. Ils ont utilisé l'ensemble des stocks de gaz lacrymogène du Canada au Sommet des Amériques, qui ont été obligés d'en commander aux États-Unis. Et je sais pas si vous le savez, si vous vivez pas dans Saint-Jean-Baptiste, si vous avez pas d'amis qui vivent dans Saint-Jean-Baptiste, vous le savez sûrement pas, mais les gaz, en fait, c'est pas juste de la fumée, c'est de la poudre. Puis la poudre, elle reste. Alors pendant des semaines, voire des mois, dans un vieux quartier comme Saint-Jean-Baptiste, il y a beaucoup de bois, beaucoup de briques, et qu'il restait du gaz lacrymogène partout. Tu faisais du porte-à-porte, t'allais passer le journal deux mois plus tard, puis t'ouvrais une porte, puis tu te rendais compte d'avoir une puff de gaz lacrymogène. Évidemment, probablement que les locataires qui étaient là, ils s'en rendaient plus compte, mais voilà. Et on n'aurait pas imaginé que ce serait si pire que ça, la répression, c'est clair, clair, clair. On n'aurait pas imaginé qu'il y aurait autant de monde non plus, que ça se passerait aussi bien, mais c'est ça. Puis moi, je m'en souviens encore, il y a 10 ans, le soir du 20 avril, j'étais un peu en état de choc, parce que je sais pas si j'étais encore au comité populaire à cette heure-là ou si j'étais déjà chez moi, mais j'étais sous le choc parce qu'on avait eu une grosse, grosse, grosse manifestation, hein, 10 000 anticapitalistes puis 10 000 altermondialistes anti-néolibéraux. Donc c'est beaucoup, beaucoup de monde au centre-ville, puis ça avait été super bien. On avait fait une belle, belle, belle manif, puis en fin de journée, la police de Québec est venue arrêter Jaggi Singh. En fait, on savait pas que c'était la police de Québec. Ils étaient déguisés en manifestants. À la limite, ça aurait pu être un groupe d'extrême droite. Ils sont arrivés avec une minivan et ils ont finalement kidnappé Jaggi Singh au coin de la rue de nos locaux, en fait, au coin Sainte-Claire-Saint-Jean. Puis moi, j'avais essayé d'empêcher l'arrestation jusqu'à temps qu'on me sorte une espèce de matraque télescopique, puis que je me rends compte que finalement, c'était des flics, puis que c'était peut-être dangereux. J'ai eu peur, en fait. J'ai lâché le militant à ce moment-là parce que je savais pas si c'était un pistolet ou quoi qu'on me sortait. Et donc, non, j'aurais pas imaginé qu'il y aurait autant d'arrestations, qu'il y aurait autant de répression, qu'il y aurait autant de gaz lacrymogène, et surtout qu'on ferait aucune distinction entre les manifestants, le monde ordinaire, monsieur, madame, tout le monde. Finalement, c'était le peuple contre la police et les chefs d'État. puis on avait eu une réponse magnifique des gens. Donc c'est ça en gros. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben oui, je pense qu'on a des nouvelles responsabilités suite à ça. Puis en fait, le fait qu'on soit plus insignifiant, que la gauche radicale soit le cœur de la gauche, en fait, maintenant, la gauche sociale, ça amène des nouvelles responsabilités. Celle de s'organiser, celle d'aller, d'être non seulement au cœur de la gauche sociale, des mouvements sociaux, mais d'être aussi au cœur du peuple, puis d'aller vers les gens. On a vu que c'est possible d'aller vers les gens, on a vu que c'est possible de les avoir de notre côté. Et donc c'est ça, c'est une des leçons très importantes du Sommet des Amériques pour moi, pour les anarchistes, mais aussi pour la communauté populaire qui essaie toujours à refaire l'enracinement dans un quartier. Et l'autre leçon aussi, c'est toujours pour moi, c'est d'intéresser les gens à la politique et l'importance de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on fait l'erreur comme militant d'essayer d'intéresser les autres militants à nos causes. Puis on se dit, bon, on va essayer d'intéresser les militants au logement, on va essayer d'intéresser les militants, à la radio communautaire. Mais en fait, c'est peut-être plus sain d'essayer d'intéresser nos voisins à la militance et à la politique, à la radio communautaire, au logement. On va aller plus loin comme ça. Puis pour ça, il faut partir des préoccupations des gens, puis il faut réussir à passer du jeu au nous. Puis c'est ça. Juste pour finir, sans être dans la ligue du vieux poil, on a l'impression, des fois, on se dit « Ah, mon Dieu Seigneur, le sommet des Amériques, c'est loin, l'ASLEA, la mondialisation, il n'y a plus personne qui parle de ça. » Sauf peut-être des ouvriers qui perdent leur job chez Abitibi-Bowaters ou ce genre d'affaires-là. Mais en même temps, bon, nous, en ce moment, l'actualité de nos luttes, comme avant le sommet des Amériques, c'est redevenu les luttes contre les gouvernements provinciaux et fédéraux, les budgets d'austérité, les coupures et tout. Puis ça, il faut pas se leurrer. Hein. C'est né dans la mondialisation, c'est les traités de libre-échange qui font en sorte qu'on attaque les services publics aujourd'hui. Donc, les luttes contre Charest, les luttes contre Harper, mais sont dans la droite ligne des luttes contre l'ASLEA et contre le Sommet des Amériques. Donc, voilà. Je crois que je serais mieux de passer en musique, éventuellement. En fait, on va écouter du Corrigan Fest pour la fin de l'émission, parce que, comme je l'expliquais, c'est la première fois que je me retrouve devant une console comme cela. En fait, devant cette console-là. J'ai déjà fait de la mise en onde ailleurs. Je sais pas ce qui est arrivé. Mais finalement, bref, je préfère pas trop y toucher. Fait qu'on va mettre de la musique pour les pas 10 minutes qui restent. Donc, deux pièces de Corrigan Fest, ma gang de chanceux. Vous écoutiez Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. C'est l'émission du collectif Anarchiste La Nuit. Vous étiez en compagnie de Nicolas. Et on va aller écouter Je suis fils de Corrigan Fest. Et après ça, on va sûrement écouter une autre pièce. Et ensuite, c'est les amis de la Voix du Libre qui passent. Je viens de les voir, sont de l'autre côté de la vitre. Donc, c'est cela. Sur ce, bonne fin de soirée. Passez une agréable semaine sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec.
Quand il y a une crise du logement, quand il y a un sommet des Amériques, quand il y a la guerre, quand on coupe mon chèque, quand il y a du sexisme, du racisme, de l'homophobie, ou quand j'ai juste besoin qu'on parle de moi, de toi, de nous, Sequoia est là, comme une amie. Mais des fois, comme moi, Sequoia est cassée. Heureusement, moi, j'ai toujours des amis pour m'aider à me sortir de la marde. Quand j'ai besoin, mes amis sont là. Sequoia a beaucoup d'amis. Puis je pense que c'est le temps pour eux, pour elles, pour nous, d'être là. 529-9026.